Stalingrad Connection.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'occasion du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, le collectif Stalingrad Connection consacre une émission aux femmes exilées. Nous avons porté ce projet entre femmes, en non-mixité. Nous avons choisi de mettre en avant les femmes exilées car elles sont souvent invisibilisées dans l'imaginaire collectif de la migration. Elles représentent pourtant la moitié des personnes qui migrent aujourd'hui dans le monde. Et leurs motifs, leurs voies de migration sont très divers. Les femmes migrantes se trouvent à l'intersection de multiples violences. Les violences sexistes, au pays et ici en France. Les violences sociales, comme le déclassement engendré par la migration. Des violences des représentations aussi, qui sont très stigmatisantes. Et enfin, bien sûr, les violences institutionnelles infligées par une administration française violente, humiliante. Par ailleurs, les femmes étrangères n'échappent ni au contexte de suspicion généralisée envers les personnes migrantes, ni à la fermeture des frontières et à la restriction de l'accès aux papiers. Les rencontres, les réflexions, les discussions qui nous animent depuis 3 années nous apprennent à faire dialoguer féminisme et antiracisme. Et c'est pourquoi cette émission cherche à poser un regard féministe sur ces situations. Ne pas considérer les femmes migrantes comme seulement des victimes, éviter de reproduire les imaginaires et les idées reçues. Parce que ces expériences de vie singulières sont marquées par la violence et s'inscrivent dans un cadre juridique rigide, complexe, nous avons souhaité comprendre et sommes allés interroger Violaine Husson, juriste à la CIMADE. Avec elle, nous parlerons des situations subies dans le pays d'origine qui rentrent dans le cadre de la demande d'asile, de violences conjugales, des femmes victimes de traite des êtres humains, mais aussi de situations qui ne rentrent pas dans le prisme du cadre légal, les vides juridiques et les dysfonctionnements pratiques.
Bonjour, je suis Violaine Husson, je travaille à la CIMADE sur les questions genre et protection.
Bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui pour discuter à l'occasion du 8 mars des enjeux liés aux femmes et à la migration. Pour commencer, on pourrait rappeler que quand on parle de migration ou des personnes migrantes, les femmes sont la plupart du temps invisibilisées.
Pendant très longtemps, on n'a pas du tout pensé à rendre visibles les femmes. À la CIMADE, on fait très attention aux termes qu'on utilise. On parle des personnes étrangères pour intégrer dans la migration les hommes, les femmes et les enfants. Quand on parle de l'étranger, ce qu'on retrouve dans les textes, on parle de l'étranger. Dans le commun des mortels, on a l'idée d'un homme seul, isolé, je caricature, hein, noir, qui ne parle pas français, qui vient piquer le boulot des Français ou qui vient piquer les prestations familiales. On est vraiment loin du compte. Les hommes migrent, et de manière isolée aussi, mais en fait, en ne parlant que de l'étranger, on stigmatise les situations des personnes étrangères, et en fait, les profils sont autant variés que le nombre de personnes qui arrivent sur le territoire. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que pendant longtemps, on n'a pas rendu visible, en tout cas, la situation des femmes migrantes. Or, en fait, dans certaines populations, dans certaines nationalités, elles étaient bien plus nombreuses à migrer que les hommes. Si on regarde les populations asiatiques, on a par exemple des ressortissants de Philippines, de Cambodgiennes, qui sont en nombre bien plus important que leurs frères, leurs pères, leurs oncles qui viennent migrer sur le territoire. Si on regarde la population migrante européenne, on avait des Italiennes, des Polonaises, des Allemandes qui étaient sur le territoire français et qui étaient aussi en nombre important. Sauf qu'elles étaient dans le service à la personne et donc du coup, on ne les voyait pas.
Depuis quand peut-on faire une demande d'asile au titre de persécution liée à son genre, liée au fait d'être une femme ?
Donc on peut faire une demande d'asile sur la question des persécutions liées à l'opinion politique, à la race, à la religion ou à la nationalité, mais également à la situation de persécution liée à un groupe social. Alors le groupe social, il n'est pas défini dans la Convention de Genève, mais en fait ce sont la société qui vous voit comme un groupe à part. Et c'est la jurisprudence, donc ce sont les décisions qui sont rendues par la Cour nationale du droit d'asile et ou par le Conseil d'État qui vont créer des groupes. Et on n'y pense jamais parce que les médias en parlent très peu, le gouvernement aussi. Mais il y a tout un pan de demandeurs d'asile qui peuvent faire une demande de protection au titre des persécutions liées au genre. Et ça concerne notamment les femmes qui vont pouvoir être persécutées du fait de leur refus d'être mariées de force, du fait de leur refus de subir un crime d'honneur, du fait de leur refus de subir une mutilation génitale féminine. Que ce soit une excision ou une infibulation, ça peut être aussi des femmes qui luttent pour leurs droits dans les pays d'origine, etc., et qui, à ce titre, risquent d'être persécutées ou ont été persécutées et qui vont pouvoir obtenir une protection en France. Donc ça date de 1951 et les groupes sociaux évoluent au fur et à mesure. On a donc des groupes sociaux aussi pour les personnes qui fuient des persécutions liées à leur identité de genre ou à leur orientation sexuelle. Enfin voilà, donc c'est une possibilité pour certaines femmes de demander l'asile à ce sujet-là, à ce titre-là, mais qui est encore malheureusement trop méconnu.
Par ailleurs, on imagine bien que les femmes, dans leur demande d'asile et leur spécificité de genre, répondent à une réalité souvent plus complexe que celle induite par la catégorie de réfugiés politiques au sens de la Convention de Genève.
Dans le droit d'asile, c'est pareil. Sur la question de la protection internationale, très peu de personnes, et encore actuellement, les travailleurs sociaux, les différents acteurs, les administrations, les associations, n'ont pas connaissance du fait que vous pouvez faire une demande d'asile au-delà du fait d'être poursuivi ou persécuté à cause de votre opinion politique. Il n'y a pas que les journalistes censurés et torturés dans leur pays d'origine qui peuvent faire une demande d'asile. Encore actuellement, dans les médias, on peut entendre parler des réfugiés politiques. En fait, les réfugiés politiques, c'est une partie de la population qui fait des demandes d'asile et qui sont protégées à ce titre-là. Mais vous avez toutes les autres personnes, et notamment les femmes. Et les femmes, elles vont avoir du mal à rentrer dans ces catégories-là. Or, nous, par exemple, à la CIMAD, mais dans d'autres associations, on se bat pour dire que, par exemple, le fait de refuser un mariage forcé, le fait de refuser une mutilation génitale féminine, le fait de se battre pour l'égalité femmes-hommes dans son pays d'origine, il y a eu énormément d'avancées dans plein de pays du Sud, c'est important de le dire, grâce à des associations, il y a des mobilisations de femmes et d'hommes. Les femmes qui luttent contre ces pratiques traditionnelles néfastes, on peut considérer que c'est des actes politiques. Pourquoi est-ce qu'on les regarde seulement sous le prisme d'un des motifs de la Convention de Genève? Il y en a cinq. L'appartenance à un certain groupe social qui fait qu'ensuite, ce groupe est réduit et on n'en entend pas parler. Le fait de dire que c'est un acte politique de refuser un mariage forcé, c'est fort, c'est important, et elles sont persécutées à ce titre-là. Du coup, c'est aussi intéressant de regarder l'asile sous l'angle politique. Du côté de Belge, il y a eu une protection pour une femme qui avait fui un mariage forcé, en mettant le mariage forcé dans le cadre des opinions politiques. Donc c'est intéressant, c'est tout récent, ça commence à bouger. On espère qu'en France, ça va un peu suivre cette ligne-là. L'important, c'est que les femmes soient informées de leur possibilité de faire des demandes d'asile à ce titre-là, que ce soit pour leur orientation sexuelle, sur leur identité de genre, les mariages forcés, le refus de subir un rite de veuvage dégradant, le refus de subir une exploitation sexuelle ou une exploitation par le travail, l'esclavage moderne. Voilà, ce sont des choses importantes. D'une part, l'information, et d'autre part, continuer à faire bouger les lignes pour agrandir ces groupes sociaux qui, on le voit, sont parfois amenés à être réduits en fonction des flux migratoires du peur de l'appel d'air.
Stalingrad Connection.
Donc, il y a une prise en compte de la question du genre et des violences subies dans le pays d'origine par le droit d'asile français, ce qui concerne une petite partie des femmes migrantes, puisque la plus grande partie des femmes étrangères bénéficient d'un titre de séjour autre, et notamment au titre du regroupement familial. Mais en cas de violence conjugale sur le territoire français, qu'est-il prévu ?
Pour les personnes étrangères qui sont victimes de violences, et notamment les femmes, quand elles sont victimes de violences au sein du couple, il y avait toute une difficulté parce que jusqu'en 2003, donc vous voyez, c'est assez récent, vous aviez une carte de séjour en tant que conjoint d'eux. Vous avez une carte de séjour en tant que vous êtes marié avec quelqu'un, et c'est à ce titre-là que vous avez obtenu votre carte de séjour. Il a fallu attendre 2003 pour qu'il y ait une première prise en considération dans les textes français, de la situation des femmes notamment, qui étaient face à un problème cornélien. Soit elles restaient au domicile avec leur conjoint violent, et elles pouvaient garder leur carte de séjour, parce qu'il y avait encore la communauté de vie, soit elles quittaient le domicile conjugal, et dans ce cas-là, elles perdaient leur droit au séjour. Vous imaginez les répercussions qu'il y a dans ce cadre-là, l'emprise de l'auteur de violence sur la personne étrangère, dont son statut en fait, va dépendre de cette communauté de vie. Donc il a fallu attendre 2003 pour qu'on se dise « oui, il y a quand même un souci pour les personnes qui arrivent sur le territoire français, qui n'ont pas encore obtenu une première carte de séjour et qui du coup sont victimes de violence et qui n'arrivent pas à partir de la crainte de perdre leur droit au séjour et donc du coup d'avoir une obligation de quitter le territoire. Et dans certains pays, c'est compliqué de revenir après un mariage en femme isolée et en procédure de divorce. »
En fait, le titre de séjour obtenu au titre du regroupement familial rendait les femmes dépendantes de leur statut de conjointe, et donc dépendantes de leur conjoint, qui devait être présent pour toutes les démarches administratives. Ce qui rendait très compliqué, voire impossible, pour les femmes victimes de violences d'en parler, comme à la préfecture au moment de refaire les titres de séjour.
Et on se retrouvait avec des situations complètement hallucinantes d'hommes, de conjoints français, qui accompagnent, ou de conjoints étrangers, mais en situation régulière, qui accompagnaient leur épouse au guichet. Et au moment de passer, ben, le conjoint disparaissait. Or, il fallait la présence du conjoint violent pour que madame puisse bénéficier du renouvellement du titre. Donc en 2007, on s'est dit, là, c'est plus possible, et on a permis en fait le renouvellement de la carte de séjour. Il a fallu attendre la loi de 2016 pour que cette possibilité devienne une obligation de la préfecture à partir du moment où vous allez prouver les violences.
Pour illustrer ces complications administratives, hein, et la façon dont l'institution peine à entendre les femmes victimes de violences et les femmes étrangères victimes de violences, nous allons maintenant écouter un testing téléphonique qui a été réalisé par la CIMADE en 2018 auprès de différents commissariats et qui cherchait à mettre en lumière la non-protection des violences conjugales pour les femmes étrangères.
Bonjour, vous êtes bien en communication avec l'hôtel de police.
Alors, dans un premier temps, il faut qu'elle aille récupérer un certificat médical de la part de son médecin traitant ou peu importe le médecin.
D'accord.
Ça peut être un psychiatre aussi. Et par la suite, elle peut venir déposer une plainte.
D'accord.
Et alors, du coup, on se posait la question, c'est que son mari lui dit que comme elle n'a pas de papier, elle ne peut pas porter plainte.
Elle n'a pas de papier. Ça va être compliqué, effectivement.
Ouais, d'accord. Parce que du coup, quoi, qu'est-ce qui se passe? Elle risque d'être arrêtée ou quelque chose comme ça?
Bah, si on n'a pas de titre de séjour en France, déjà porter plainte sur le territoire français alors qu'on n'a pas de titre de séjour, je pense pas que ça va passer.
D'accord, ok.
Tout simplement.
Après, c'est sûr et certain qu'au niveau de la police nationale, cette personne, si elle est en situation irrégulière, on va pas la laisser repartir. On représente la loi. Donc, avec la police nationale, une personne qui est en infraction, on va la, effectivement, faire une procédure contre elle.
Ah, là, en plus, elle est en situation régulière.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Ah, ouais, bah là, ça. Elle rentre chez elle, quoi. Hein.
Mais est-ce qu'elle peut porter plainte quand même?
Bah. Après, c'est comme si vous êtes trafiquant de drogue, vous, et vous avez de la drogue chez vous, et puis vous venez déposer plainte parce qu'on vous a volé votre drogue, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je vois, ouais.
Bah ouais, après c'est... Elle est en situation régulière, puis elle veut déposer plainte, quoi, donc non, ça va pas.
D'accord. Mais du coup...
Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je vois, mais si elle est
après,
en
situation... c'est un peu logique, quoi.
Non, mais si elle est en situation irrégulière, c'est aussi à cause de lui, parce que c'est lui qui veut pas venir avec elle faire les papiers. Normalement, elle devrait pouvoir avoir des papiers.
Ouais, mais moi, je sais pas, franchement.
D'accord.
Toutes les victimes peuvent venir déposer plainte.
Ok, mais elle va pas se faire arrêter, quoi, parce que son mari lui dit « Tu peux rien, t'as pas de papiers. »
On verra bien.
C'est-à-dire, elle peut venir quand même?
Oui.
Elle va pas se faire arrêter, quoi.
On peut pas savoir, ça, monsieur. On ne connaît pas sa situation, nous.
Bah, elle est victime et elle a pas de papier, en fait. C'est ça, le problème.
Ouais.
Du coup, vous lui conseillez de venir quand même porter plainte?
Bah, de toute manière, quelle qu'elle soit, si une victime, si elle veut déposer plainte, elle peut venir. Hein. Après, si elle préfère subir, avec elle subisse.
Ah bah non, si je vous appelle, c'est justement qu'elle est en galère et elle veut porter plainte.
Elle fait ce qu'elle a à faire, mais après, si jamais doit se passer autre chose, nous concernant par rapport à son statut, mais tant pis. Hein.
Okay. Ok, ça marche, merci.
Voilà, au revoir.
Bonne journée.
Bonne journée.
Alors, ce testing est absolument édifiant, hein, je pense qu'il parle par lui-même, mais... À propos des violences conjugales, il existe une procédure juridique qui concerne toutes les femmes, hein, qu'elles soient étrangères ou non. C'est l'ordonnance de protection. Est-ce que vous pouvez nous la présenter?
Alors, l'ordonnance de protection, donc, c'est une mesure qui est décidée par le juge aux affaires familiales, qui permet de protéger les personnes victimes de violences au sein du couple, quelle que soit la situation administrative et la nationalité. C'est une décision qui amène le juge à prendre plusieurs mesures. Par exemple, l'interdiction de port d'armes, l'interdiction d'approcher, tout ce qui touche la présence des enfants, la situation, la séparation des biens, l'éviction du conjoint violent du domicile, même si c'est l'auteur de violence qui est propriétaire ou qui est bailleur, enfin qui a le bail à son nom. Et ça permet aussi aux personnes étrangères d'obtenir une carte de séjour. Vraiment, l'idée, c'est de protéger les personnes et dans cette protection, il y a le titre de séjour.
Donc, l'ordonnance de protection? C'est en fait une procédure prévue pour toutes les femmes victimes de violences. Et pour les femmes étrangères, elle a permis d'ouvrir une voie de régularisation. Après, dans les faits, est-ce que c'est vraiment appliqué?
En 2018, il y a eu un peu plus de 3000 ordonnances de protection qui ont été délivrées. Il y a eu 57 cartes de séjour ordonnances de protection. Donc on y voit bien qu'on est bien loin du compte, puisque rien qu'à la CIMADE, les femmes accompagnées sont beaucoup plus nombreuses à avoir obtenu cette ordonnance de protection, mais dans la pratique n'obtiennent pas le titre de séjour qui va avec, alors même que la loi prévoit que l'ordonnance de protection qui permet de protéger les personnes, françaises ou étrangères, ça permet de protéger tout le monde, donc ça c'est une vraie avancée dans les textes. Dans la pratique, il y a peu d'ordonnances de protection qui sont délivrées et il y a très très peu de titres de séjour qui sont délivrés sur ce fondement-là. Parce que on considère que c'est une ordonnance, que c'est une carte de séjour compassionnelle, ou parce que c'est tellement compliqué d'obtenir un rendez-vous en préfecture que l'ordonnance de protection, qui est une mesure d'urgence décidée par le juge aux affaires familiales, va pouvoir durer 6 mois. Enfin, elle dure 6 mois. Sauf qu'en fait, on a des personnes qui ont des rendez-vous en préfecture 8 mois plus tard. Et donc, quand elle se présente, elle n'est plus bénéficiaire de l'ordonnance de protection, donc elle ne rentre plus dans les clous pour obtenir la carte de séjour.
Comme souvent, des mesures sont mises en place, mais elles sont peu appliquées. Et encore moins pour les personnes étrangères, ce qui peut même créer des situations violentes et absurdes où les agents de préfecture vont soupçonner des femmes d'inventer des violences conjugales pour obtenir des papiers autonomes. On vient de parler de situations de femmes qui ont obtenu un titre de séjour par le biais du regroupement familial, mais ce n'est pas le seul motif de migration pour les femmes.
On est toujours étonné d'apprendre qu'il y a 52% de la population mondiale migrante qui sont des femmes. C'est aussi le cas en France. Les femmes sont aussi nombreuses que les hommes à migrer. Elles migrent pour plein de raisons. Elles migrent parce qu'elles viennent étudier, elles migrent parce qu'elles viennent travailler. Elles ne viennent pas que migrer pour rejoindre un conjoint. Ça, c'est vraiment dans la tête de la majorité des personnes, c'est que les femmes viennent rejoindre un conjoint. En fait, elles migrent pour plein de raisons, pour travailler, pour étudier, parce qu'elles ont envie d'une vie meilleure ou parce que dans leur pays d'origine, elles se rebellent pour telle ou telle chose. C'est important de se le redire. Et les femmes qui migrent sont la plupart d'entre elles des femmes qui ont un certain bagage universitaire ou en tout cas de débrouillardise. Elles travaillent dans leur pays d'origine. Elles étaient déjà émancipées dans leur pays d'origine. Elles ne viennent pas en France pour s'émanciper. C'est important parce que je pense que dans la plupart de nos propres représentations, on pense que les femmes qui arrivent sur le territoire français vont être émancipées en France. En fait, non. Au contraire, parfois même. C'est qu'il y en a certaines qui quittent tout alors qu'elles avaient des postes importants dans leur pays d'origine. Et donc, du coup, elles se désémancipent en arrivant ici. Alors, c'est pas le bon terme, mais du coup, on est vraiment loin de nos propres représentations.
Avant d'arriver, il y a la route. Est-ce qu'il existe des spécificités pour les trajectoires féminines ? Les femmes vivent-elles la route de l'exil différemment que les hommes ?
Certaines d'entre elles, quand elles viennent pour travailler, pour étudier, pour rejoindre quelqu'un, arrivent avec un visa. Obtenir un visa, c'est aussi le parcours du combattant dans les pays d'origine. Certaines femmes font des demandes de visa qui sont refusées et du coup décident quand même de prendre la route pour arriver en Europe. Elles ont souvent l'appui de leur communauté qui parie aussi sur elles parce que bonnes élèves, parce que débrouillardes, parce que emploi. Elles prennent la route et sur cette route-là, les parcours migratoires qui sont de plus en plus longs et de plus en plus coûteux du fait de cette Union européenne forteresse font que les violences sont de plus en plus graves. Alors, les hommes sont victimes de violences sur le parcours migratoire, mais les femmes aussi, et encore plus parce que femmes. Vous payez une dette. Vous devez payer, j'en sais rien moi, 6 000 euros pour faire votre trajet. Mais sur le trajet, on va vous demander plus. Et comme vous êtes une femme, bah vous allez avoir à subir des viols par des gens de votre communauté, par d'autres migrants, par les douaniers, par les policiers, par les passeurs. Et ça, c'est le fait aussi d'être femme qui fait que les parcours migratoires deviennent aussi beaucoup plus dangereux pour ces femmes-là, qui vont parfois choisir un protecteur, entre guillemets, sur le parcours, qui va être la seule personne à violer cette femme-là, mais du coup qui va la protéger des autres viols qu'elle pourrait amener. Et ce qui pose un véritable souci ensuite de l'emprise qu'a ce monsieur sur cette dame-là quand ils arrivent aussi sur le territoire européen. De la même manière, si je reviens, je fais un pas de côté sur les questions de traite, on a des personnes qui ne se reconnaissent pas comme victimes de la traite. Elles ont été exploitées, mais c'était un passage pour arriver en Europe. Et du coup, parfois, certaines d'entre elles, elles sont à remercier leur passeur, parce que c'est grâce à lui qu'elles ont enfin quitté leur pays où elles ne pouvaient plus vivre sereinement et qu'elles sont sur le territoire français. Donc, elle leur est redevable. Donc, jamais elles vont le critiquer, jamais elles vont oser porter plainte contre lui. Et elles ne veulent pas pour autant une étiquette de traite. Et donc, il y a aussi tout un travail aussi pour que les personnes se rendent compte que ce qui leur est arrivé, ce n'est pas normal et que la personne doit être condamnée pour le fait d'avoir exploité une personne, que ce soit par le travail ou sous d'autres formes d'exploitation. Il n'empêche pour autant que ces femmes-là, elles n'ont pas envie d'aller porter plainte et que du coup, ça a nous, par exemple, à la CIMADE ou d'autres associations, de voir s'il y a d'autres manières de les régulariser parce qu'elles ne vont pas vouloir cette étiquette-là.
La demande d'asile, comme protection à la traite des êtres humains, implique un dépôt de plainte. Et certaines femmes ne souhaitent pas porter plainte pour des raisons qui leur sont propres. Ce qui nous rappelle qu'accompagner des demandeurs d'asile, et ici plus particulièrement des femmes, va nous forcer à être attentifs et à l'écoute de la complexité des expériences de vie, des trajectoires humaines et surtout de la volonté des personnes. Aujourd'hui, Violaine Husson, quelles sont vos attentes concernant la prise en compte institutionnelle des différentes situations rencontrées par les femmes migrantes ?
Il faut que ça change, il faut que les textes soient plus protecteurs, il faut que la pratique change, parce qu'en fait, il y a des textes qui sont protecteurs, mais ils ne sont pas appliqués, peu appliqués, pas connus. C'est important que les luttes soient conjointes pour que toutes les personnes qui soient victimes de violences soient effectivement protégées. Et donc, dans ce cadre-là, ça passe notamment par le biais de l'information des personnes concernées, mais également et surtout par le biais de la formation que moi, je voudrais obligatoire pour les différents acteurs. Tant qu'elle reste sur la base du volontariat, en fait, c'est les personnes qui sont volontaires et qui sont déjà sensibilisées et qui se font former. Et c'est important, et il faut que ça continue. Mais il faut rendre cette formation obligatoire pour toutes et pour tous, pour qu'enfin les choses changent, quoi. Pour que les différents acteurs, que ce soit des acteurs administratifs, associatifs, médicaux, dans la justice, soient tous formés à accompagner au mieux les personnes qui le souhaitent. Permettre à ces personnes de pouvoir avoir le choix et de respecter leur choix. Je pense que c'est important de continuer à les rendre actrices et acteurs de leur choix. On ne sait pas mieux ce qui est pour elles. Et ce serait vraiment important qu'il y ait des lois qui soient protectrices pour toutes et pour tous, pour une justice et pour plus d'égalité femmes-hommes sur le territoire européen et notamment français.
Stalingrad. Connection.
Nous avons cherché aujourd'hui à mettre en lumière les formes d'autonomie, de puissance qui se trouvent dans ces trajectoires. Bien sûr, une simple émission ne peut suffire à exprimer la complexité des expériences de vie de chacune, et nous espérons surtout, avec ces explications juridiques, avoir ouvert des questionnements, apporter quelques réponses. Et si la loi existe, et c'est tant mieux, pour protéger les femmes, elle n'y arrive pas toujours. C'est pourquoi il nous paraît important de rappeler qu'une perspective anticarcérale est possible, qu'on peut ne pas miser sur le tout pénal face aux violences subies, mais insister sur la capacité d'écoute, l'attention portée aux volontés des personnes concernées.
Treat me like a bottle of Pepsi. Your back manner use and your face look cute. Deal with me like a bag juice. Me say equal rights and justice. No ignorant people I go cuss this. My pussy tight cut up your cocky like cutlass. But if you want head my youth, you have to suck this. Boy, me nah go compromise. Me want feel how your head feel between my thighs. Me want looking at your dreamy eyes. When you a chew on me pum pum like french fries. You never hear about foreplay. I'm modern times now, boy, relax, it's okay. If me ever bring it up in a the group chat, you get the threesome for your birthday. Cause you have a clean mouth and your lips them sexy. Treat me like a bottle of Pepsi. Your back manner use and your face look cute. Deal with me like a bag juice. Me say equal rights and justice. No ignorant people I go cuss this. My pussy tight cut up your cocky like cutlass. But if you want head my youth, you have to suck this. Me love it when me man them brave up. Can of man of them good tongue I save up. That me like when you eat me right. When you do it, me galang outrageous. Put your lips pa me clip, make me gear up. Let out your inner freak, nobody cage up. That we like when you eat me right. When you do it, we galang outrageous. You have a clean mouth and your lips them sexy. Treat me like a bottle of Pepsi. Your back manner use and your face look cute. Deal with me like a bag juice. Me say equal.
equal rights and justice. No ignorant people I go cuss this. My pussy tight, cut up your cocky like cutlass. But if you want head my youth, you have to suck this. Me not afraid of nobody. And when me talk, me not care who not like me. Me shave up my body. Me drink my pineapple juice nightly. Me take care of my body. So him supposed to name me nightly. Me not afraid of nobody who not like me. Them fi bind me. Cause you have a clean mouth and your lips them sexy. Treat me like a bottle of Pepsi. Your back man a use and your face look cute. Deal with me like a bag juice. Me say equal rights and justice. Enough ignorant people I go cuss this. Me pussy tight, cut up your cocky like cutlass. But if you want head my youth, you have to suck this.
Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Nous vous souhaitons une magnifique journée. Restons ensemble, soudés, vénères et solidaires contre le patriarcat et le racisme d'État. À bientôt sur les ondes, sur la toile et dans la rue.
What do you want it to be? Do you know that the wall has two sides and nobody is free? Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Sneaking all through Syria, crossing all the borderlines. Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children. Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children. Could you imagine a politician calling a woman a dog? Do you wanna stay in the kitchen? Is that where you belong? How do you picture the perfect leader? How do you want him to be? Has he promoted the use of torture and killing families? Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Sneaking all through Syria, crossing all the borderlines. Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children. Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children. Make America great again.
And when my voice is screaming out to my own ears. That feels different from when I hear yours. Now that's just the way it is. And when I'm standing in this mirror after all these years, what I'm viewing is a little different from what your eyes show ya. I guess I didn't see myself before ya. Moving forward, a subtle power, a tough love, like a shark. Tough love.
And I thought the world would revolve.
I thought the world would revolve
without us,
without us, without us, without us.
But nothing I know could slow us down. Couldn't slow us down.
I thought I could live without you. Break us down. And just like you, I can't be scared. And just like you, I hope I'm spared. But it's tough love. I know you feel it in the air. Even the babies know it's there. Tough love. The laws of the world tell us what goes sky and what falls. It's a superpower. The laws of the world never stopped us once. Cause together we got plenty superpower. A subtle power. Too much to bear.
And I thought the world would revolve.
I thought the world would revolve.
Without us,
without us, without us, without us.
But nothing I know could slow us down. Couldn't slow us down.
I thought I could live without you. But together we got plenty power. No, couldn't break us down. They couldn't break us down. Yes, we can. Couldn't break us down. They couldn't break us down. Yes, we can. Couldn't break us down. They couldn't break us down.
И органы в погонах. Органы, 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 органы. Органы, органы, органы в погонах. Женский оргазм встречает препоны. Погонами, иконами нам замещают стропоны. Мизулина упорно запрещает гондоны. Агония, спазм, стук падающей короны. У страны похлеще, чем Анна о неврозы. Дума бездумна, бездарны законы. Нет экономики или обороны. А есть Лубянка, лагерь, наручники, заборы. Бастрыкин, Сечин, жулики, воры. Железные занавесы, кормушки, щеколды. СИЗО, коридоры, решек, аккорды. В стране авангарда унылые морды, уроды. В Мордове оттачиваю гонор. Сухбич пакет в Столыпинском вагоне. Надзирателей морды. Органы, 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 органы. Органы в рясах и органы в погонах. органы, 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 органы. Погоны в головах и погоны на зонах. Тополь М президенту замещает орган. Свобода больше не более лучше не свобода. И когда вместо хуев водят танки в город, я отказываюсь быть протоном. Театр закончился, начались войны. Я бабушка, которой пришили органы. Впрочем, в пизду, господа из органов. Отрицаю вас, ваши путинские жаргоны. Никогда не знаешь, какой твой прогон станет последним стоном. Органы, 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 органы. Органы в рясах и органы в погонах. Органы, 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 органы. Органы, зажигая бигфордов.
Estrellas sobrevolándolo todo. Oposición de ataque frente al mundo entero. Tus viejos cómplices chupándote el oro. Tu cárcel de rejas rojas encerrando a todos.
solo quiere caminar.
À l'origine de leur richesse, on nous agresse, donc on agresse. Ils ont battu des nègres, violé des négresses. Donc nos plaies sont grosses et mon crâne en dos. Angoisse et morale en baisse dans mon blocos. C'est le blocus sur nos vies en plus. On signale nos pédigrés dans nos cursus. Comment veux-tu que ma colère cesse quand le colon est cruel comme le SS? Tu peux me croire, y'a pas d'espoir.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas de victoire.
Dans mon roman, gros nuages et orages dans mon climat. Barbelés, paraboles au panorama. Des comas et des ulcères à l'estomac. Des gosses sous trauma et qu'on n'a pas promu. Et ces pays qu'on vient paumer au PMU. Et l'économie où le chômeur est un ennemi. Et les fins de mois crevés dans l'anonymat. Magasins fermés, pharmaciens armés. Parents autant alarmés que désarmés. Des regrets, des reproches et des remords. Et des taux d'antidépresseurs records. Des sorties de cure et puis ces coins obscurs où se procure la drogue dure pour une piqûre. C'est sans recours ni issue de secours. Sans regard de compassion pour nos parcours.
Tu peux me croire, y'a pas d'espoir.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas de victoire.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas d'espoir.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas de victoire.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Rien à foutre de vivre pour tenir les poutres et voir à ma fenêtre malheur et mal-être. Ne connaître que ces remparts qui m'ont vu naître, m'ont vu grandir et puis me verront disparaître. Et c'est les nôtres qui sont au centre pour subir la peur ou la faim au ventre. Fléchir à chaque fois devant chef et maître et réfléchir à tout ça le soir quand ils rentrent. On nous maltraite de 20h à 20h30. Nos vies font les gros titres dans leurs chapitres. Les journalistes flippent et leur cœur palpite. S'inquiètent qu'on fasse sauter sous tes cockpits. Y'a pas d'espoir dans mon périmètre. Ma cote est nulle à leur applaudimètre. Tu peux me croire, faire l'étonner, sourire avec ironie. C'est le point de vue des damnés des colonies.
Tu peux me croire, y'a pas d'espoir.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas de victoire.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas d'espoir.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas de victoire.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas d'espoir.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas de victoire.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Tu peux me croire, y'a pas d'espoir.
Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
mêmes crises qui t'épuisent. Toujours amer et le cœur sous armure. Et chaque jour les mêmes angoisses qui perdurent.
shopping carts. Vaginas in the art museum, and people buying tickets just to see them. Put your pussy on a diet, then paparazzi gonna start a riot.
Ou pas, yeah.